chers amis, l'heure étant venue, en ce samedi 20 novembre, j'aime à vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui, hier soir, nous a accueillis. Et sur le tableau, il y a la parole qu'il nous a donnée comme accueil. Et vous l'avez sur vos petites pages jaunes. Il nous a dit, pour commencer, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience ou de la persévérance en moi, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et il ajoutait « Moi, Jésus, car nous ne sommes pas rassemblés au nom d'une communauté particulière, mais nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus. » Et c'est pourquoi nous sommes convaincus de sa présence réelle au milieu de nous. Car il l'a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et nous le bénissons pour cette certitude de sa présence. Car lui seul connaît les besoins de chaque cœur ici. Moi, je ne les connais pas. Bien sûr, j'en connais un peu. Mais le Seigneur, lui, connaît vos besoins. Et ce dont je suis convaincu, c'est qu'il voudrait répondre à un besoin personnel précis. Vous êtes peut-être dans une difficulté matérielle. Il n'y a pas de question matérielle et de question spirituelle. Tout est entre les mains de celui à qui, un jour, nous devrons rendre compte. Oh, que nous puissions, dans ces quelques moments que nous allons passer ensemble dans ces journées, aller sans cesse à Jésus et expérimenter qu'il a des oreilles qui entendent, qu'il a un cœur qui aime, une main qui se pose sur nous, qui nous touche, car notre Seigneur n'est pas une idole, c'est un Dieu vivant. Il a été mort et il en est sorti ressuscité, et nous connaissons le vainqueur de la mort. Alors, cette nuit, je lui demandais quelle était la parole, le mot d'ordre que je devais vous donner, et comme le thème qui nous a été présenté est le siècle présent et le siècle à venir, à la lumière des Écritures, le Seigneur m'a souligné une de ses propres paroles où il emploie ses expressions. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime toujours prendre un texte où Jésus lui-même a parlé. Alors, nous allons le replacer dans son contexte et le lire dans le chapitre 12 de l'évangile de Matthieu. Nous lirons depuis le verset 24. Depuis le verset 22. On amena à Jésus un démoniaque qui était aveugle et muet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Il y a eu un changement une fois qu'il a été en contact avec Jésus. Alors, toute la foule étonnée disait, n'est-ce point le fils de David? Parce que le peuple juif attendait la réalisation de cette promesse que le Messie viendrait. Mais, verset 24, les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, comme il connaît les nôtres, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Et vous savez que, après son baptême, le baptême de Jésus, il avait été emmené au désert. Et que là, il avait rencontré Satan. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Satan? Il l'a vaincu. Il a lié l'homme fort. Dans toutes les tentations, il était le vainqueur. Et alors, il pouvait ensuite sortir les gens de sa maison. Verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous a tourmenté au cours de votre existence. Vous avez peut-être pensé que vous étiez dans ce cas-là, d'avoir commis le péché irrémissible et qu'il n'y avait pas de pardon pour vous. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et cela est arrivé peut-être à tous, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Voilà le thème, n'est-ce pas? Ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Et alors, pour savoir ce qu'était réellement ce blasphème, il n'y a plus de doute quand vous allez dans Marc, au chapitre 3, nous retrouvons au verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. » Et puis là, vous avez la vraie réponse. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Hein. Voilà ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et je sais bien qu'aucun de vous ne l'a commis. Vous devez être délivré de cette pensée. Si vous n'avez pas refusé, si vous ne refusez pas le Seigneur Jésus, vous n'avez pas commis ce péché. Ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Et nous vous résumions, au fond, ce que nous allions dire sur ce thème, en soulignant que le siècle présent, c'est le temps où Jésus n'est pas reçu. Il n'a pas été reçu. Le siècle à venir, c'est le temps où il régnera. Alors, quand il était là, présent, et qu'on le voyait, qu'on l'entendait, eh bien, dire que cette puissance qui se manifestait en lui, à tel point qu'un muet parlait, entendait, et voyait le Seigneur, c'était une réalité, mais par incrédulité, on attribuait cette puissance de Jésus à qui ? Au diable. Et voyez-vous, on arrive en des temps semblables. Ce Jésus qu'attendaient les Juifs, on l'appelait la consolation d'Israël, c'était leur consolation de penser que le Messie allait venir, il était là, il faisait des miracles, et dans leur incrédulité, ils repoussaient la chose. Alors il n'y avait plus de salut pour eux. Dans le siècle à venir, quand Jésus règnera et imposera son royaume, parce que quand il est venu la première fois, il n'a pas imposé son royaume. Il n'a pas pu l'établir, pour quelle raison ? Parce qu'on ne l'a pas voulu. On l'a vraiment refusé. Et pourtant, il avait toutes les preuves qu'il était le Fils de Dieu. Alors, mes amis, vous êtes venus ici. Croyez au Seigneur Jésus qui est venu, qui a lié l'homme fort et qui peut piller ses biens. Tout ce qui peut vous entraver, vous pouvez le recevoir de la part du Seigneur. C'est la première chose que je voudrais vous dire ce matin. Croyez-le. Et surtout, ne vous laissez pas accuser par Satan qui voudrait vous troubler et vous dire « c'est pas pour moi, c'est pour vous ». Mais saisissez-le. Et alors, vous aurez une bénédiction tout à fait surhumaine. Dieu notre Père, du fond de nos cœurs, nous voulons te bénir et te dire que nous croyons en ta puissance et qu'elle veut se manifester individuellement à chaque cœur que tu as réuni ici, non pas pour écouter un homme, mais pour se rappeler avec lui de ce que toi tu as dit. Que ta bénédiction repose sur toutes nos œuvres et que tu sois avec nous pour ce repas ce matin et que tu continues ta bénédiction sur nous tous. En Jésus. Amen. Alors maintenant, chers amis, nous allons avoir le petit déjeuner. Vous avez votre petit livret. Le siècle présent et le siècle à venir. Quels seront les lectures que nous proposons? Nous avons souligné dans notre première rencontre que le mot « siècle » est un mot qui vient du grec « aion » et qui ne représente pas 100 ans, mais une période, un âge. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve ce mot une 100aine de fois. Et alors, évidemment, suivant les traductions, ceux qui ont traduit correctement, ils ont traduit, au lieu de monde, ils ont traduit âge. C'est un âge. Et on a discerné, en prenant un texte dans les Hébreux, chapitre 1er, qu'il y avait différents âges dans l'écriture sainte, mais pour discerner ces âges, il faut lire toute la Bible, depuis le commencement à la fin. Est-ce que vous savez combien on discerne d'âges différents dans l'écriture? 7. Je vois qu'il y en a qui le savent. Sept âges différents. Alors il faut que vous puissiez les retrouver dans l'écriture pour avoir aussi des certitudes. Mais nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, donc dans ces différents âges, il y a eu différentes manières que Dieu a employées pour se révéler. J'ai dit qu'on en avait trouvé 7. Quand vous ouvrez la Bible, qu'est-ce qui vous est raconté d'abord? La création. Et quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé coupable? Non. Il l'a créé innocent. Alors, le premier temps pour l'homme a été l'innocence. Vous avez ça dans Genèse 1, verset 28. Vous pouvez noter et le retrouver et le lire dans vos chambres. L'innocence. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il l'a créé libre. Dieu est un être libre. Il ne l'a pas mis sous une loi rigide. Il n'y a fait qu'une défense, laquelle? De ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pourtant ce que l'homme a fait en suivant sa femme. Après cette période d'innocence qui n'a pas duré bien longtemps, quelle est la seconde période que nous trouvons dans l'Écriture? La conscience. Une fois que l'homme a désobéi, il a pris conscience qu'il était séparé, qu'il s'était séparé de Dieu. Alors, cette seconde période, vous la trouvez au chapitre 3 de la Genèse, verset 7e. Quelle a été la réaction à la chute? Nous lisons, les yeux de l'un et de l'autre, donc de l'homme et de la femme, s'ouvrirent. Et qu'est-ce qu'ils ont connu? Qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils ont voulu masquer leur nudité. Quelle est la troisième dispensation? Le gouvernement humain, qui était donné à quelle époque? Au temps de Noé. Chapitre 8, verset 15. Dieu se révélait de différentes manières. Et c'était des âges qui se succédaient. Il y a eu l'âge de l'innocence, on n'y est plus. L'âge de la conscience est toujours là. Mais ensuite,
Dieu a confié le gouvernement à l'homme. Chapitre 8, verset 15 de la Genèse. Puis, comment est-ce que ça a fini? Quand Dieu a confié à Noé ce gouvernement, est-ce qu'il a été à la hauteur? Il a fait faillite, lui aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu du vin. Et c'était pas un mal de boire du vin, mais probablement qu'il en a trop bu, puisque il s'est mis nu dans sa tente. Et il a été découvert par l'un des siens. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu un changement. Et c'est pourquoi on a pensé que le présent siècle a commencé au moment du déluge. Le commencement de ce présent siècle. Si vous lisez ce que vous trouvez au chapitre 6, l'état du monde au déluge, avant le déluge, verset 3 du chapitre 6 de la Genèse. L'Éternel dit : mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit la méchanceté des hommes, qu'elle était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur les portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur, et l'Éternel dit : j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Je me repens de les avoir faits. Et si vous vous souvenez, parce que vous avez lu la Genèse, de ce que Dieu avait créé, est-ce qu'il avait créé des animaux féroce? Non. Et vous comprenez pourquoi c'était plus facile de mettre tous ces animaux dans l'arche. Hein? Ceux qui ont mis les animaux dans l'arche, qui les ont fait entrer, n'avaient aucune crainte. Mais ensuite, Dieu a employé un autre moyen. Mais c'est toute la création qui s'est trouvée bousculée. Et le plan de Dieu va s'y continuer. De quelle manière? Une nouvelle dispensation. La promesse. À qui? Abraham, Dieu appelle Abraham. Puisque Adam n'a pas marché, Dieu appelle Abraham et lui fait une promesse sans condition. Et qu'est-ce qu'il lui promet? Une postérité qui durerait toujours. Voilà ce que nous apprenons au sujet de ces différentes manifestations, de ces différents âges. Abraham aurait un fils, mais est-ce qu'il pouvait l'avoir? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il l'ait? Un miracle de Dieu. Sa femme était âgée aussi, mais Dieu tient ses promesses. Il avait 75 ans quand Dieu lui est apparu. Et il était dans quel pays? L'Irak, Ur, et c'est Saddam Hussein qui est là-bas. N'est-ce pas maintenant? C'est très frappant de voir où l'on en arrive maintenant. On nous parle de toutes ces villes, de tous ces lieux qui se trouvaient dans la Genèse. Et je cite encore, donc, après la promesse, la cinquième dispensation qu'on trouve quand on lit la Bible, on trouve la loi. Et qui a donné la loi? C'est Moïse. Exode chapitre 19, verset 3. Oui. Pour Abraham, la promesse, Genèse 12, verset 2. Pour la loi, Exode 19, verset 3. Et alors là, la loi, ça va jusqu'à la venue du Seigneur. La venue, la première venue comme sauveur. Et qu'est-ce qui se serait passé quand Dieu a décidé d'envoyer Jésus comme sauveur? Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été accepté? Il aurait établi son royaume. Du reste, au début, avec Jean-Baptiste, il parlait d'établir ce royaume. Mais le roi ayant été rejeté, le royaume n'a pas pu s'établir. La loi a été transgressée et Israël, qui devait être le peuple, qui devait manifester ce que c'était d'être conduit par Dieu, il a fait faillite. Et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Dieu avait laissé les nations être guidées par quoi? Par leur conscience. Mais il avait donné à ce peuple une loi, des commandements, qui étaient pour le bien de tous les hommes, et en particulier pour le bien d'Israël. Mais au lieu de suivre cette loi, les Israélites l'ont transgressé. Alors, qu'est-il arrivé? Quand Jésus, qui avait parfaitement accompli la loi, au milieu d'eux, et manifesté toutes les bénédictions que Dieu avait dans son cœur pour l'humanité, il a été crucifié. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Alors Israël, qui était le peuple de Dieu, est-ce que vous êtes convaincu que c'était le peuple de Dieu? Prenez un autre verset que vous trouvez dans le livre du Deutéronome, qui vous montrera l'importance de ce peuple d'Israël. au chapitre 32e, verset 8e. C'est un texte très important. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Vous avez là la révélation de la pensée de Dieu pour Israël. Mais comme Israël n'a pas été fidèle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été mis de côté. Est-ce que c'est pour toujours? Alors, vous allez dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11e, verset 13e. Je vous le dis à vous, païens. En tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, Paul qui parle, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, les païens, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. On l'a vu ce matin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on disait de la puissance du Seigneur, on l'attribuait à qui? À Satan. Et c'est ça le péché irrémissible. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, elle ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité pour ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Et quel est l'avenir de l'Église? Vous le savez? De ce qu'on appelle l'Église en grand, qui comprend tous les milieux. C'est d'être vomi de la bouche du Seigneur. Alors, vous voulez améliorer l'Église? Non. Ayez à cœur de vivre la vie chrétienne en Jésus. Mais ne pensez pas qu'on va faire une grande Église qui sera parfaite et quand cette Église sera parfaite, nous pourrons dire, Seigneur, tu peux venir. C'est pas vrai. C'est absolument un enseignement faux. Le monde aujourd'hui, la chrétienté va au-devant d'une catastrophe. Et les pays qui seront peut-être les plus touchés, ce sont les pays où on a des croix, qui sont partout, sauf dans le cœur. Comprenons bien cela. Mais nous allons revoir tout cela, mais il faut qu'on s'y habitue.
à savoir ce qui vient. Quel est l'avenir de l'Église, de la vraie Église? Et quelle est la vraie Église? Elle est composée de tous ceux qui, dans les milieux les plus divisés, appartiennent au Seigneur, sont membres du corps de Christ. Le Seigneur connaît, lui, ceux qui lui appartiennent. Mais dire qu'on lui appartient, ça ne suffit pas. Il faut montrer que nous sommes de lui et que sa vie est en nous. Et que nous vivons, nous cherchons à vivre selon sa parole. Et quelqu'un qui cherche à vivre selon sa parole, c'est un homme qui s'humilie souvent. C'est un homme qui s'est reconnu pécheur, transgresseur, ayant besoin de qui? D'un sauveur. Et ce sauveur a porté quoi? Tous nos péchés. Il les a pris. Alors, comment naît l'amour pour le sauveur? Par une conviction de péché. Alors je vous le demande, est-ce que vous l'avez eu cette conviction de péché? On croit quelquefois qu'on l'a eu le jour de notre conversion, c'est vrai. Mais plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus nous réalisons combien nous sommes pécheurs, mauvais. Notre conscience nous parle. Et alors, au lieu de nous désespérer, nous acceptons cette humiliation et nous disons au Seigneur, c'est vrai, j'étais perdu. Mais pour qui est-ce que le Seigneur est venu? Pour des perdus. Quand vous commencez à réaliser que vous aviez besoin d'un sauveur, votre amour pour lui va augmenter. Parce que sans cela, qu'est-ce qui va arriver? Je relis verset 23. Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Est-ce que nous avons rendu vis-à-vis d'Israël un bon témoignage? Est-ce que l'Église dite chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante ou orthodoxe, est-ce que l'Église a rendu un bon témoignage vis-à-vis d'Israël? Non. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car, et vous avez ce verset fantastique, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors, devant un plan pareil, on ne peut que s'écrier, comme Paul au verset 33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui. Par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, mes amis, je crois que nous arrivons à la fin du temps de l'Église. Mais quel est l'avenir de cette Église? Le monde allant de plus en plus mal, l'incrédulité augmentant partout, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui s'est produit au temps de la Genèse avant le déluge? Juste avant le déluge. La méchanceté était affreuse, Dieu dit, je m'en vais en finir, hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un enlèvement. Et qui est-ce qu'il a enlevé? Enoch. Enoch n'est pas rentré à la maison. Mais il n'y a pas eu de témoin. Mais on savait que Dieu l'avait pris. Et ce qui va arriver, c'est que Dieu va prendre les siens. Mais il faut savoir si on est des siens. Parce qu'on est né de nouveau, parce qu'on a reçu sa nature. C'est là que nous devons avoir une certitude. Est-ce que nous sommes des siens? Ce n'est pas notre appartenance à une église qui fait que nous sommes des siens. C'est notre appartenance à Jésus-Christ. Et c'est à cause de Jésus-Christ qu'il y a des choses que nous ne faisons pas et d'autres que nous accomplissons, pas pour notre gloire, mais par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc Dieu a fait un enlèvement. Il y a eu combien d'enlèvements dans l'Ancien Testament? Deux. Hein? Alors vous connaissez celui d'Enoch et l'autre, c'est celui d'Élie. Élie, lui, il y a eu un témoin qui l'a vu s'en aller. Comment? Oui, c'est Élisée qui a été son témoin. Mais les fils des prophètes, quand ils ont voulu rechercher Élie, est-ce qu'ils l'ont trouvé?
Non,
il était loin. Eh bien, ce que nous pensons, c'est que quand le Seigneur reviendra subitement, et c'est la joie du chrétien, de penser que d'un instant à l'autre, il peut venir pour nous prendre. Mais est-ce que nous sommes prêts à partir? Ou bien est-ce que nous sommes tellement liés au monde? Ce siècle présent, nous allons le voir cet après-midi, est-ce qu'il nous tient tellement? Ce présent siècle, avec toutes les convoitises du monde, est-ce qu'il nous retient pour que nous ne puissions pas nous réjouir de penser qu'il va venir et nous prendre? Nous devons réfléchir, nous devons être sérieux avec la parole. C'est quelque chose de très triste de penser que les différentes manières que Dieu a conçues pour toucher le cœur de l'homme n'ont pas réussi. C'est triste, hein? Mais est-ce que c'est vrai? La question est là. On trouve que c'est triste. Mais croyez-vous qu'Enoch, quand il a su qu'il devait partir, que le Seigneur allait le prendre, qu'il n'a plus prêché la parole, croyez-vous que parce que nous savons que ça ne va pas améliorer le monde, on n'a pas à prêcher l'Évangile? On a toujours à prêcher l'Évangile. Mais on ne s'illusionne pas sur ce qui va se passer. Pas d'illusion. L'Écriture nous dit clairement
ce qui va arriver. Et qu'est-ce qui se prépare sur le monde? C'est le jugement. C'est le jugement et la colère de Dieu. On n'est pas habitué à ça. Bien sûr, on est encore dans le temps de la grâce. Et dans toutes ces périodes, on a été sauvé uniquement par la grâce. Les âges ont été différents, mais toujours, c'est la même grâce de Dieu qui était à l'œuvre et qui sauvait dans ses différentes manifestations. Mais ce qui vient maintenant, c'est la colère. Mais nous n'attendons pas la colère, nous attendons Jésus. Chapitre 1 des Thessaloniciens. On s'est converti à Dieu pour attendre Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. La colère vient sur un monde qui refuse d'obéir à Dieu. Et je voudrais arriver quand même à la septième dispensation. C'est le royaume millénaire, oui. Pour l'Église, je dis acte 2, verset 11, pour une référence. Comment? Non, non, la loi c'est Exode 19, verset 3. Hein. Et l'Église, ça, son commencement, c'est acte 2. La nouvelle étape, nouvelle période. Acte 2, verset 11. C'est la sixième période. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Quelle fête?
À la Pentecôte.
À la Pentecôte. Hein? Et alors, la septième période, celle du royaume. Quand le Seigneur reviendra, il reviendra comme roi. Il ne sera pas comme la première fois où on pouvait peut-être se tromper parce qu'il avait revêtu un corps d'homme, hein, mais il revient comme roi, avec puissance. Et il établit un règne qui va durer combien?
1000 ans.
Mais après avoir connu 1000 ans, le règne du Seigneur et de ses disciples, qu'est-ce qui va se produire? Après 1000 ans de paix, est-ce qu'on aura compris?
Non.
On n'aura pas compris. Et le diable ayant été lié pendant les 1000 ans, il ne pouvait pas agir. Mais il faudra pendant le règne que ceux qui vivront pendant le règne se convertissent, comme on a dit se convertir nous. Mais si on ne veut pas, si on lui résiste, alors il y aura l'exécution. Pendant le règne, le méchant sera retranché tous les matins. Il ne pourra pas subsister. Mais il y en a qui feront semblant, qui se soumettront pour ne pas être exécutés. Mais quand Satan sera délié, ils manifesteront qu'ils n'ont jamais donné leur cœur au Seigneur. Et c'est pourquoi ils se révolteront. quand ce gouvernement qui aura donné 1000 ans de paix, de stabilité, où l'on aura connu une nouvelle création en quelque sorte. Et alors, qu'est-ce qui arrivera? Le jugement. Et vous avez cela au chapitre 20 de l'Apocalypse. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la cité bien-aimée, c'est Jérusalem, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et alors, verset 11, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent. Donc, là, vous avez une date en quelque sorte au sujet de la fin du monde. Quand est-ce que vient la fin du monde, d'après l'Écriture? Avant les 1000 ans ou après les 1000 ans? Après les 1000 ans. Donc, c'est faux de dire que c'est bientôt la fin du monde. C'est bientôt la fin d'un âge. Et pas la fin du monde. C'est la fin d'un âge. C'est la fin d'une période. Cette période de grâce qui a été donnée au monde. C'est bientôt la fin de l'Église. C'est très drôle de lire dans les journaux les grands titres funérailles ecclésiastiques. Cette semaine, ça a paru encore. Les gens se rendent bien compte que l'Église, ça ne va plus. Et pourtant, Enoch, tout en sachant qu'il s'en irait auprès du Seigneur, il a continué de prêcher jusqu'au dernier moment. Et c'est ce que nous devons faire. Je vous lis encore dans Jude, au sujet d'Enoch. Verset 14 du Il n'y a qu'un chapitre. Jude, l'avant-dernier livre avant l'Apocalypse. Enoch, 7e depuis Adam, a prophétisé de ceci. Et ceux-ci, ils sont caractérisés dans les versets précédents. Qu'est-ce qu'il disait? Voici le Seigneur est venu au milieu de ses 7 myriades. Pour exécuter le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont impiement commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ceux-ci sont des murmurateurs, se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche prononce d'orgueilleux discours et admire les hommes en vue de leur profit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il vous disait que, à la fin des temps, est-ce que vous croyez que nous y sommes? Il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels, n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous
dans l'amour de Dieu, attendant quoi? La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est sa miséricorde que nous attendons. Le retour de Jésus en gloire, eh bien, c'est un fait de sa miséricorde. Alors, les uns les autres qui contestent, reprenez-les les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Je ne sais pas du tout quelles seront vos réactions. Vous allez être dans vos ateliers, vous pourrez vous parler tout autour de la maison. Et je vous conseille, après le dîner, si vous pouvez faire ce petit tour, c'est très beau. Et là, il y a le cimetière des sœurs, tout ici en haut. Et puis on voit jusqu'à Montréal. Il y a une très belle vue. Et ça vaut la peine si vous prenez un peu d'air. Et puis si vous marchez. C'est bien de pouvoir un peu marcher. Mais évidemment, pendant que je marchais, je priais. Et alors j'avais tout le temps un verset qui me revenait et que je vais vous citer parce qu'il est aussi pour vous et qui nous montre ce qui se passe dans les derniers temps où on met tout en doute de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a cru. Dans la version seconde, dans la version d'Arby que je connais par cœur parce que c'était ma Bible d'enfance et qui est fidèle, mais toi, demeure, parce qu'il est dit au verset 13, les hommes méchants et impossibles avanceront toujours plus dans le mal. C'est bien ce que je vous ai dit. Hein. De Timothée 3, verset 13. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, hein, parce qu'il faut que ça soit personnel. Mais toi, reste attaché aux choses que tu as apprises, ou demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu. C'est un peu ce que nous vions dans la dernière série sur la foi, dont tu as été pleinement convaincu. Sachant de qui tu les as apprises et que dès l'enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Et puis il a ajouté, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ou dans la seconde, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre, donc à toute une formation. Mais en même temps, il y avait une question que Jésus a posée à ses disciples après leur avoir enseigné des choses peut-être assez difficiles. Il leur a posé cette question, avez-vous compris toutes ces choses? À la fin de cette réunion, je me demandais, est-ce que vous avez compris toutes ces choses, quelque chose? On a essayé de vous montrer qu'on pouvait trouver cette dispensation, mais j'espère au moins que vous avez compris qu'il faut lire la Bible, sinon on n'y comprendra rien. Alors, avez-vous compris toutes ces choses?
Vous allez répondre dans les papiers. Quelle atmosphère est-ce qu'il y avait dans les papiers? Des discussions, bien, vous essayez de comprendre. Est-ce qu'il y avait des oppositions? Non. Eh bien, Dieu soit loué. Mais vous voyez, j'ai posé quelques questions et la nécessité de lire la Bible. Mais comment la lisons-nous, hein? Pour comprendre ces choses que j'ai essayé de vous énumérer, il faut la lire de la première page à la dernière. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend à connaître toutes les promesses que le Seigneur a faites et de croire qu'il les tiendra. Alors pourquoi pouvons-nous croire que ce livre est la parole de Dieu? Bien, vous savez, plus j'avance, plus je me dis, mais c'est vraiment inspiré de Dieu. C'est vraiment de Dieu. Ça correspond. Et tout se place d'une façon merveilleuse. Mais pour cela, il ne faut pas isoler un verset, il faut les mettre ensemble. Alors, on a une idée de ces âges. Est-ce qu'on peut voir un peu ce que vous avez vu? Parce que si vous n'avez pas compris les paraboles, là, eh bien, ça ne marche pas. Et vous ne pouvez pas comprendre ce grand plan de Dieu et ses âges. Et si Dieu le permet, que nous soyons là ce soir, je répondrai à cette question. Comment est-ce que j'ai pu dire que ce verset nous parle de l'enlèvement de l'Église? Quelqu'un a posé cette question, il voudrait être convaincu. Alors ce sera la réunion de ce soir. Sur quoi nous appuyons-nous pour dire que le Seigneur gardera son Église de l'heure de la tentation ou de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière? Et je voudrais que vous soyez bien au clair, pas par mes idées, mais nous vous citerons la parole. Et nous verrons ce qui est dit aussi de la résurrection, des résurrections. Et si on doit confondre la venue du Seigneur pour le monde, son retour pour le monde, et sa venue pour les siens. Je dis tout de suite, il ne paraîtra pas aux yeux du monde sans avoir les siens avec lui. Ça nous permettra aussi de faire une différence entre Israël, peuple terrestre du Seigneur, avec des bénédictions terrestres, et l'Église, peuple céleste, avec des bénédictions célestes. Mais il ne faut pas confondre. Parce que je suis vraiment effrayé. Je ne veux pas citer des noms, mais j'ai bien connu quelqu'un qui a écrit de très bonnes choses. Et maintenant, pour pouvoir être d'accord avec tout le monde, il a même traduit la Bible. Et contrairement à ce que j'ai pu voir chez les catholiques aussi, qui ont compris certaines vérités maintenant, eh bien, il se permet de dire au sujet de l'épître à Tite, vous connaissez l'épître à Tite? C'est de qui? De Paul, hein? Vous n'avez pas à la chercher. Et vous connaissez ce qu'on a dit souvent? Rococo, galefico, tetete, tititi, fi. Hein? Alors, vous savez où trouver. Je n'ai pas parlé en langue. Rococo, il y a deux Corinthiens. Galefico, galate, éphésiens. Rococo, galefico, tetete, tititi, fi. Il est là. Hein? Rococo Galefico.
Titi. Bon. Du chapitre 2 de Tite, la grâce de Dieu, verset 11 du chapitre 2, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée dans le don de Jésus. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent, on retrouve ce siècle présent, d'une manière, ça c'est second, sensée, en attendant la bienheureuse espérance. Puis il a mis deux points après ça, la manifestation de la gloire. Or, c'est pas du tout cela. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. On verra cela ce soir, Dieu voulant. Il y a deux choses. Il y a la bienheureuse espérance qui concerne l'Église et son enlèvement auprès du Seigneur. Et quand il reviendra, nous serons avec lui. L'Église est vue dans le Christ. Il n'y a pas le Christ et l'Église. Il y a Christ. L'Église est à l'intérieur. C'est quelque chose de merveilleux. C'est un peuple céleste. Et la manifestation de sa gloire, ce sera aussi notre manifestation à nous. Colossiens, chapitre 3. Je vous dis seulement ça pour vous préparer. Maintenant, pour vous donner un peu plus de temps, on va faire la lecture de ce chapitre 13 de Matthieu. Au fond, quand on lit le chapitre 12, on voit que le Seigneur était déjà rejeté. Il était déjà rejeté. Et alors, il leur explique, aux foules et aux siens ce qui va se produire. Seigneur,